vais vous dire, les gars, ce qu'il faut faire pour faire augmenter vos salaires. D'abord, parler avec les potes et faire une section syndicale. Tous solidaires, ce sera pas long pour faire la nique au patron. Moins d'heures de boulot, meilleures conditions de travail, les congés payés, les gosses au bord de la mer. Ça semble simple, mais ça l'est pas, et je vais vous expliquer mieux que ça. Pourquoi faut rejoindre le syndicat? Car si vous croyez que le patron va de lui-même vous augmenter, vous serez là au jugement dernier. On sera tous morts et enterrés, au paradis bien sûr, et Saint-Pierre sera un bon patron pardi. Vous savez bien que vous êtes exploité, mais le patron, il dit que non. Il force les cadences à t'en faire crever. Tu peux être viré, mais te laisse pas faire. Faut tous signer une pétition et organiser un meeting. Discutez, donnez votre avis, décidez, faites quelque chose. Patron futé comme un bison trouvera toujours le compte service qu'il enverra dans votre meeting pour moucharder et provoquer. Faudra tout de suite dire aux débiles que le jaune lui va pas au teint. Arrête de faire la mouche, t'auras pas d'histoire, et le mec aveugle retrouvera la vue. Maintenant votre section est créée, vous tenez votre première réunion. Choisissez bien quelques copains pour composer votre bureau. Le patron qui est sourd quand un seul jeune entend très bien le syndicat. Il est beau joueur, hein? Et il est tout seul. Allez les gars, on va le trouver. Mettons que votre boulot soit l'enfer avec un salaire de misère. Le patron se met à gueuler, feignant pas de rallonge, enfoiré. Mais regardant par la fenêtre, il voit des milliers de gars unis. Salaud, affameur, négrier, il bat sa femme, on peut le parier. Les gars le plus dur, il reste à faire, tout sera bon pour vous foutre en l'air. La police, la garde nationale, c'est un crime, une carte syndicale. Vos meetings seront perturbés, on matraquera tous ceux qui bougent. Sale bande de rouges, anti-américains, espions japonais, saboteurs de la défense nationale. Mais chez Ford, ce qu'ils ont compris, et chez Renault, ce qu'ils ont compris, et chez Lip, ce qu'ils ont compris, et chez Rodia Seta aussi, aux joints français, ce qu'ils ont compris, un peu partout, ce qu'on a compris. Si on se laisse pas faire par les fachos, si on se laisse pas faire par les provocateurs, si on se laisse pas faire par les milices, si on se laisse pas faire par les jaunes, par les flics, par le gouvernement, si on se laisse pas baiser par les patrons, eh bien les gars, on gagnera. Enfin, ce que je vous en dis, prenez-le comme vous voulez, mais faites-le.
De Libertaire, 89.4, les chroniques syndicales. Chroniques syndicales aujourd'hui avec Sylvain Patieu, autour de son ouvrage « Panthères et pirates, des Afro-Américains entre lutte de classe et Black Power ». Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Alors, d'où viens-tu? Qui es-tu?
Écoute, j'habite à Noisy-le-Sec dans le 93 et je suis enseignant et chercheur en histoire à l'université Paris 8. Et je ne sais pas si on l'entend, j'ai quand même un petit accent qui fait que je suis originaire du sud-est de la France, de Aix-en-Provence.
Non, ça ne s'entend pas trop quand même.
Ah bon.
T'as dû en perdre un petit peu en venant, quoi.
Ah, c'est triste.
Ouais. Voilà, et donc, Panthères et pirates. Alors moi, quand j'ai vu le livre, là, Panthères, je comprenais, Black Panther, Black Power, tout ça, ça me causait un peu. Et pourquoi pirates?
Alors parce que c'est l'histoire d'un couple de noirs américains qui a détourné un avion. Donc en fait, ils sont devenus pirates de l'air.
Oui, parce que moi, la première fois que j'ai vu le titre, je pensais que c'était un lien que tu faisais entre le Black Panther et puis les pirates, effectivement, et les embarcations sur lesquelles il y a eu quelques noirs, d'ailleurs, qui participaient aux équipages, quoi.
Alors non, c'est vrai que ça aurait pu être le cas, puisque quand on lit l'historien Marcus Redicard, par exemple, il explique qu'il y avait des équipages de pirates qui étaient multicolores, multinationaux, et avec même aussi des femmes qui participaient. Et c'est vrai que moi, j'avais écrit un roman de pirates qui s'appelle « Et que celui qui a soif vienne », parce que je suis aussi écrivain. Et donc, dans ce roman de pirates, j'avais mis en scène un ancien esclave qui s'était libéré. Et c'est un peu par cette piraterie-là sur les mers que je suis arrivé à mes panthères pirates de l'air, puisque j'avais un ami, un historien afro-américain qui s'appelait Tyler Stovall, malheureusement qui est mort en décembre 2021. Et Tyler Stovall, on était devenus amis parce qu'on travaillait un peu sur des thèmes similaires. Lui, il était historien de la France et il disait qu'il y avait une histoire française de la race, qu'il n'y avait pas que aux États-Unis que les questions raciales étaient importantes. Donc on était rentrés en contact et un jour, il savait que j'écrivais aussi en tant qu'écrivain et que je m'intéressais aux pirates. Et il m'a dit, tu sais, moi j'ai des amis aussi qui étaient pirates. Alors j'ai dit, ah bon? Et il m'a dit oui, des amis qui étaient pirates de l'air. Et donc c'est là qu'il m'a parlé pour la première fois de Gene et Melvin McNear.
Alors, on va revenir sur ces personnages. Donc, tu en as connu quelques-uns en France.
Voilà. Oui, j'ai rencontré
Melvin. Qui sont-ils en gros, ces gens-là? C'est donc des Afro-Américains issus du milieu populaire et qui, voilà, d'un seul coup, vont décider de détourner un avion.
Alors,
il y a sans doute des raisons historiques,
voilà,
ou sociologiques.
Sûr, oui, bah, en fait, on peut dire que rien ne les prédisposait à détourner un avion, puisque Gene et Melvin, ils sont nés en Caroline du Nord, dans des familles populaires, mais des familles assez structurées, où ils étaient bien encadrés. Il y avait la paroisse, ils étaient très religieux. Il y avait l'encadrement aussi par les IMCA, par exemple, pour Melvin. Donc,
c'est quoi ça,
C'est les Young Male Christian Association. Désolé pour l'accent.
Ouais. Donc des gens qui ont combattu contre la ségrégation.
Alors, IMCA, c'était surtout encadrement de la jeunesse, quoi, pour éviter que les jeunes fassent des bêtises. Donc ils faisaient du sport, ils faisaient des activités culturelles. Et puis en effet, alors plutôt la famille de Gene était engagée dans le mouvement des droits civiques. Et tous les deux, bah, c'est les premiers de leur famille à accéder à l'université. Et ils auraient pu avoir, disons, une carrière, enfin faire leurs études, après avoir une carrière, acheter une maison avec un jardin, avoir des enfants.
Ouais, venir la classe moyenne noire,
voilà,
s'est développée après les
années 60, quoi. Ça, exactement. Ouais. Ils auraient pu être là. Mais il y a la conjonction de trois phénomènes qui fait qu'ils se sont retrouvés à détourner un avion. La première chose, c'est que dans les années 60, il y a une révolte mondiale de la jeunesse contre l'ordre établi, contre l'autorité. Donc ça, ils y participent. Et notamment Melvin, en fait, il va à l'université parce qu'il est sportif de haut niveau. Et donc il est quarterback dans l'équipe de football américain. Donc le quarterback, c'est le capitaine, en quelque sorte. Donc c'est quelqu'un... Souvent, on dit que les sportifs dans les universités américaines, ils sont plutôt conservateurs, quoi. Donc là, il va se révolter, en fait, contre les méthodes autoritaires, sexistes, humiliantes des coachs, et il se fait virer de l'université. Le deuxième point qui fait que ils entrent dans cette rébellion, c'est le mouvement des droits civiques qui a obtenu des victoires, mais qui rencontre aussi certaines limites dans les années 60, notamment avec l'assassinat de Martin Luther King en 68, et plus généralement la violence de la police, la violence des Blancs.
Bah, on a vu ça encore très récemment.
Ouais, bien sûr.
Ça n'a pas changé.
Non, malheureusement, ça n'a pas changé. Mais disons que voilà, il y a cet aspect-là aussi qui fait que ils vont entrer dans une révolte plus radicale qui est portée par le mouvement du Black Panther Party, qui s'inspire plutôt de la pensée de Malcolm X que de celle de Martin Luther King.
Ouais.
Et le dernier événement, c'est la guerre du Vietnam, c'est-à-dire que à ce moment-là, quand on est un jeune Américain rebelle, on risque d'être envoyé au Vietnam, et c'est ce qui arrive à Melvin. Il est d'abord envoyé dans l'armée, dans une base en Allemagne, où là il découvre vraiment le racisme des soldats blancs, et ensuite il est mis sur la liste pour aller combattre au Vietnam.
Et donc, il va combattre au Vietnam et il va déserter.
Alors, il ne va pas combattre au Vietnam, justement, il refuse d'y aller. Il déserte et il se réfugie à Détroit, donc c'est une ville où il ne connaît personne. Et donc là, il commence pour lui la vie clandestine. Pour lui et pour Gene.
Et Gene, alors, c'est quoi son origine à elle ? Pareil, mais classe moyenne noire.
Voilà, enfin, classe populaire, mais en voie d'ascension vers les classes moyennes. Une famille plus militante que la sienne. Et c'est un peu l'intellectuel du couple. C'est-à-dire qu'elle, elle va à l'université pas grâce au sport, mais parce qu'elle est bonne à l'école. Et c'est un peu elle qui politise Melvin. Et c'est elle, par exemple, quand il est dans sa caserne en Allemagne, qui lui envoie le journal du Black Panther Party. Et c'est vrai que Black Panther Party avait une politique tournée vers les femmes, avec, au moins en théorie, ils étaient contre le sexisme.
En théorie, parce que quand on le lit, on voit que c'est des gros machos, quand même.
Voilà, c'est des gros machos, mais au moins, en théorie, ils avaient une pratique d'ouverture pour les femmes. Et bon, c'est aussi le reflet d'une époque où le machisme était quand même omniprésent dans les mouvements noirs.
Et... omniprésent.
Voilà, omniprésent, ouais, c'est...
Avec un H.
C'est ça, ouais. Et dans les mouvements blancs aussi, d'ailleurs, hein. Voilà. Et donc, il y avait quand même une certaine attirance pour cette radicalité, aussi pour les femmes. Et donc, voilà, Gene, elle est attirée par les Black Panther Party. Elle envoie des journaux à Melvin dans sa caserne en Allemagne. Et il y a une geste, en fait, du Black Panther Party avec la coupe afro, avec le béret, avec la main gantée de noir, les blousons en cuir. Tout ça, ça c'est attirant pour la jeunesse de l'époque.
Thank you.
Radio Libertaire, donc toujours en compagnie de Sylvain Patieu autour de Panthère et Pirate, des Afro-Américains entre lutte de classe et Black Power aux éditions La Découverte. Et donc, on a évoqué deux personnages, Melvin et puis Jean, qui sont un peu les personnages centraux, et on y reviendra tout à l'heure. Mais ils ne sont pas tout seuls dans ce détournement d'avion.
Oui, ils sont cinq, et donc avec eux, il y a une autre femme qui s'appelle Joyce Tillerson, qui, elle, est née en Caroline du Sud, donc c'est un état du Sud, hein, comme la Caroline du Nord.
Donc des états racistes, des
voilà,
guerres
c'est
de
ça.
Sécession.
Voilà,
quoi,
hein. où il y a eu la ségrégation raciale. Et donc elle a un peu le même profil qu'eux, sauf qu'elle ne va pas à l'université, mais... Elle est quand même à l'université parce qu'elle est secrétaire dans une université, donc elle est au cœur de cette effervescence du milieu étudiant et elle se politise comme ça. Et puis les deux autres, par contre, George White et George Brown, ils n'ont vraiment rien à voir avec eux, c'est des jeunes du ghetto, du Nord, donc dans les banlieues les plus difficiles des États-Unis. Et donc eux, en fait, ils ont un profil de délinquants, avec des familles complètement déstructurées par la pauvreté, par l'alcool, la drogue, par la misère. Et donc, dès l'âge de 12-13 ans, ils commencent à être dans une sorte d'engrenage avec des actes de délinquance, des fois des arrestations. Alors, des fois, ils sont coupables, des fois, ils ne sont pas coupables. Ils passent dans des centres de correction, puis des centres qui sont en fait de véritables prisons, avec beaucoup de violence là-dedans. Et donc, voilà, ils ont ce parcours-là de délinquants. George White, il est en prison parce que il a attaqué une station-service et son complice a tué le pompiste, par exemple. Donc c'est un braqueur, quoi. Et donc eux, ils se politisent en prison. C'est-à-dire que le mouvement des Black Panthers, il arrive à s'adresser à la fois aux étudiants, comme Jean et Melvin, qui sont plutôt sages et propres sur eux, et à la fois aux jeunes des blocs, jeunes qui sont... proches de la délinquance ou qui sont même délinquants, comme George White et George Brown. Il y a des mouvements dans les prisons à ce moment-là.
Il y a beaucoup de militants emprisonnés aussi.
Oui, beaucoup de militants emprisonnés.
Il y en a un qui dit la prison, c'est mon université. Quoi.
C'est ça, ouais, c'est ce que dit George Brown. Hein. Mais il y a aussi il y a George Jackson, par exemple, qui a écrit quelque chose sur la prison de Soledad et qui raconte aussi les dures conditions de détention qu'il peut y avoir. Et donc, eux, ils se politisent en prison et ils décident de s'évader pour rejoindre les Black Panthers. Donc, ils se retrouvent eux aussi à Détroit, et ils sont dans une sorte de colocation, un mélange de New Age et de Black Panther, mais ils peuvent pas militer aux Black Panther, parce que comme ils sont tous recherchés, Melvin parce qu'il est déserteur, George Brown et George White parce qu'ils sont évadés de prison, bah, ça mettrait en danger l'organisation.
Ouais, faut voir que les Black Panthers, ils sont très moralistes quand même, côté Mao un peu sectaire, quoi.
Ouais, bien sûr, ouais, il y a ce côté-là, et c'est un parti d'avant-garde, avec des militants qui doivent être, disons, des modèles, donc il y a ce côté-là très moraliste et très...
Ils ne sont pas comme les IVV américaines qui s'intéressaient à tout le lumpen prolétariat, là, en l'occurrence. Bah, si on est lumpen, on n'est pas délinquant, on n'est pas prostitué, on n'est pas drogué.
Après, il y a aussi un risque de répression qui pèse sur eux, donc qui fait qu'ils font gaffe à ces choses-là. Mais c'est vrai qu'ils ont ce côté-là assez moraliste. Et puis, il y a aussi leurs enfants. Parce que en fait, Jean et Melvin ont deux enfants. Joyce, elle a une fille. Et donc en fait, quand ils détournent l'avion, ils prennent leurs enfants avec eux, quoi. Parce que pour eux, c'est vraiment un moyen de fuir les États-Unis. Alors il faut savoir que ils sont en danger parce qu'ils risquent de se faire arrêter si on trouve leur véritable identité. Mais ils sont aussi en danger même en tant que noirs, puisque par exemple George Brown, il se fait tirer dessus par une sorte de milice qui s'appelle le Stress, qui est constituée de policiers.
Et c'est des brigades de la mort, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est des policiers qui vont dans les quartiers noirs déguisés en vagabonds ou en hippies, qui provoquent des jeunes noirs et qui ensuite leur tirent dessus. Et donc George Brown, il s'est pris 5 balles, il a survécu, et il témoigne au procès contre les policiers. Donc, sous sa fausse identité, parce qu'il a une fausse identité comme il est évadé de prison, et les policiers lui disent « on t'a raté cette fois, mais la prochaine fois on te ratera pas ». Donc ils sont vraiment en danger de mort. Et ils décident de pirater un avion parce qu'à l'époque, c'est assez facile. Il n'y a pas encore toutes les règles de sécurité qu'on connaît aujourd'hui quand on veut prendre l'avion, quoi.
Voilà, sachant qu'il y avait déjà eu un détournement d'avion d'autres militants du Black Panthers vers Alger. Quoi.
Vers Alger, oui.
C'est-à-dire que,
Il y a eu beaucoup de détournements qui étaient vers Cuba dans les années 60, parce que c'était, un pays dit communiste ou dit socialiste qui était assez proche. Puis au bout d'un moment, Castro en a eu un peu marre, donc il a plus été très sympa avec les pirates de l'air et les amis à travailler dans les champs de canne à sucre, donc c'était
ou en prison. Vie, ouais.
Voilà, donc ils se sont rendus compte que c'était pas le paradis tropical cubain. Et là, alors Alger, pourquoi Alger? Parce qu'il y avait donc Roger Holder et Cathy Carco, qui un mois avant les pirates de l'air qui nous intéressent, avaient déjà des tourner un avion vers Alger. Eux, ils voulaient aller vers la Corée du Nord. Et puis, comme c'était très très loin, ils sont quand même laissés convaincre par le pilote d'atterrir à Alger. Et Alger, ça leur plaisait parce que Alger, c'était le pays qui avait vaincu le colonisateur français. C'était le pays d'adoption de Frantz Fanon aussi, qui était une des lectures conseillées pour ceux qui voulaient adhérer au Black
Donc,
Panther Party.
Masque, peau blanche et masque
voilà,
noir.
Hein. Qui était un psychiatre martiniquais qui a découvert le racisme en France, en France hexagonale, quand il a libéré le territoire français pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, il a été nommé dans un hôpital psychiatrique en Algérie. Et là, il a vraiment découvert les ravages de la colonisation. Et donc, quand la guerre d'Algérie éclate, il se range du côté du FLN. Quoi. Et donc, lui, c'était un théoricien qui a vraiment beaucoup compté pour les militants noirs américains.
Voilà. Donc il se retrouve à Alger parce qu'il y a aussi une délégation du Black Power qui avait été accueillie précédemment.
Il y avait
l'ambassade, quoi.
Alger organise en 1969 le festival panafricain. Donc ils ont une politique panafricaine et ils accueillent des Black Panthers. Et ils leur proposent même d'avoir une ambassade. Donc Eldridge Cleaver, qui était un des grands leaders des Black Panthers, c'est un personnage assez fascinant.
Douteux, oui.
Et douteux, oui. Il décide de créer la section internationale du Black Panther Party et donc se réfugier à Alger. Pas mal de Black Panthers qui sont recherchés aux États-Unis, certains qui sont passés par Cuba, d'autres qui ont détourné des avions ou qui sont recherchés pour des braquages ou pour des choses comme ça. Donc ils vont à Alger et à Alger ils sont bien accueillis par le gouvernement qui leur donne des locaux, qui leur donne une petite rampe, une voiture. Mais ils arrivent un petit peu en terrain conquis, quoi. Ils sont un peu arrogants, ils parlent pas arabe, ils parlent pas français. Ils ont l'impression un peu que tout leur est dû. Et donc, ils se font mal voir, en fait. Et donc, quand les pirates de l'air arrivent, le Black Panther Party, enfin, la section internationale du Black Panther Party est grillée. En plus, il y a de très fortes dissensions au sein même du Black Panther Party. Et donc, Cleaver s'est complètement fâché avec Newton, qui était le dirigeant historique du Black Panther Party. Donc, il ne représente plus grand-chose à ce moment-là. Et à vrai dire, ce qui constitue une aubaine pour les Black Panther Party d'Alger, c'est la rançon. Puisqu'ils arrivent avec $1 million en rançon, que le gouvernement algérien récupère et qui rend au gouvernement américain. Mais ça, les Black Panthers ne le savent pas, et donc ils espèrent récupérer la rançon. Donc ils ne sont plus tellement dans la solidarité, dans la construction d'une organisation qu'espèrent Dean et Melvin quand ils atterrissent à Alger.
Debout les damnés de la terre, les despotes épouvantés, sentant sous leurs pas un cratère, au passé se sont acculés. Leur ligue folle et meurtrière voudrait à l'horizon vermeil éteindre la lente lumière que verse le soleil. Debout, debout les damnés de la terre, ceux qu'on écrase dans les charniers humains. Debout, debout les forçats de misère, unissons-nous latins, slaves germains. Que la Troisième République se prostitue au tsar pendeur, qu'une sous l'extra-lunatique adore l'exterminateur. Puisqu'il faut que tout disparaisse, que nous importe, c'est la fin. Par tous les peuples en détresse s'éveille, se donnant la main. Debout, debout les damnés de la terre, ceux qu'on écrase dans les charniers humains. Debout, debout les forçats de misère, unissons-nous latins, slaves germains. Les potentats veulent la guerre afin d'égorger leur troupeau, pour cimenter chaque frontière, comme on consacrait les tombeaux. Mais il vient le temps d'anarchie, où dans l'immense apaisement, loup de France et de Sibérie,
loups humains jeûneront de sang. Debout, les damnés de la terre, ceux qu'on écrase dans les charniers humains. Debout, les forçats de misère, unissons-nous, latins, slaves germains.
Chronique syndicale, Radio Libertaire, toujours avec Sylvain Patieux, pirate et panthère, j'ai inversé le titre comme ça, on s'y retrouve. Voilà, des Afro-Américains entre lutte de classe et Black Power, aux éditions La Découverte. Donc, nos militants, qui ne sont pas très militants d'ailleurs à l'époque, se retrouvent, détournent un avion avec $1 million de rançon. Alors, ce qui est très drôle sur la couverture, on voit l'avion et on voit l'homme du FBI apporter la rançon. Il est à poil sur le tarmac parce qu'ils ont dit s'il arrive habillé, il sera armé. Mais il l'était d'ailleurs. Mais
il était quand même armé.
Il était quand même armé. Toujours est-il que ça fera aussi les gorges chaudes quand ils seront réfugiés en France, puisqu'ils diront « Ah, c'est les gens qui ont niqué le FBI !»
Oui, c'est ça.
C'est pas rien, quand même, dans la banlieue cannaise, on y reviendra tout à l'heure. Ouais. Donc, ils arrivent à Alger, ils sont pas forcément les bienvenus, le Black Power est en plein débat violent en termes de scission, quasiment, c'est là que ça se passe. Et donc, ils vont aussi être très déçus par cette arrivée à Alger, quoi. Ils pensaient y être plutôt les bienvenus et ils vont vite s'apercevoir que c'est comme Cuba, c'est pas le paradis socialiste.
Bah, ils ont deux idéaux qui se retrouvent déçus. C'est d'abord l'idéal de solidarité avec les autres Black Panthers, puisqu'ils voient que quand ils arrivent, c'est un parti qui part en capilotade, quoi. Et puis, ils apprécient pas du tout Cleaver. Enfin, il y a certains autres militants qu'ils apprécient pas. Et puis, déception aussi par rapport au panafricanisme, parce que voilà, il y avait un peu l'idée de rejoindre la terre-mère africaine. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils rejoignent un pays quand même qui est assez pauvre, dans lequel il y a beaucoup de misère, dans lequel il n'y a pas beaucoup de liberté non plus. Et même si ils sont reconnaissants envers l'Algérie de les accueillir, ils sont pas tellement à l'aise dans ce pays, quoi. Et ils parlent pas arabe, ils parlent pas français, donc déjà ça complique les choses. Et en plus, ils sont pas habitués à ces conditions de vie. Et j'ai demandé à Melvin, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous avez voulu quitter l'Algérie? Et il m'a dit, une des raisons, c'est qu'on aimait bien l'eau chaude et l'électricité quand même. Et que donc, c'était difficile de se rendre compte que c'est un pays où il y avait beaucoup de béton, beaucoup de misère, voilà quoi.
Oui. Et puis l'armée au pouvoir.
Oui, en plus, ouais.
Et donc, ils vont décider de quitter l'Algérie pour la France. Alors, quelle idée? Parce qu'ils parlent pas français, comme tu le dis.
Alors, ils décident pas vraiment de quitter vers la France, mais en fait, c'est la main qui se tend vers eux, quoi. C'est-à-dire que la main qui se tend vers eux, c'est celle du réseau Curiel.
Alors, peut-être dire un mot sur le réseau Curiel,
ouais, parce que j'explique un petit peu. Un peu oublié, bien sûr, ouais. Donc, Henri Curiel, c'était un juif communiste égyptien. Il avait beaucoup de difficultés dans la vie à cause de ça.
Oui, enfin, beaucoup de difficultés qu'il a cherché, puisque c'était un fils de banquier, quand même.
Oui, voilà, il venait d'un milieu très bourgeois, hein. Non, c'est clair. Mais il s'est engagé aussi, donc, au sein du Parti communiste égyptien. Il est devenu apatride après 56, puisque les juifs égyptiens avaient perdu leur nationalité après l'attaque du canal de Suez. Et donc, il s'est retrouvé en France. Il avait, alors c'est un peu bizarre, mais il avait certaines sympathies pour le gaullisme, enfin certains contacts avec les milieux gaullistes, et aussi il avait de grosses sympathies pour l'URSS. Et puis pendant la guerre d'Algérie, il a pris la suite du réseau Janson, donc qui était un des réseaux de porteurs de valises.
Les porteurs de valises, c'est des gens qui apportaient de l'argent ou qui récoltaient de l'argent pour les FLN,
voilà,
qui partaient en Algérie après.
Voilà, qui faisaient des fois des faux papiers. Il y a malheureusement Adolfo Kaminski qui est mort il n'y a pas longtemps, qui faisait partie de ces gens qui faisaient des faux papiers.
Enfin, il a fait des faux papiers des 42 ou 43.
Oui. Il n'était pas que pour les Algériens, mais il a fait aussi pour les Algériens. Et donc, Curiel, il a été arrêté pendant la guerre d'Algérie, il a fait de la prison. Et donc, il a gardé quand même des très bons rapports avec le gouvernement algérien. Et il a transformé son réseau de porteurs de valises, qui était un réseau œcuménique, avec des chrétiens, avec des communistes, avec des socialistes, voilà, protestants, catholiques, il y avait du tout. Et il a transformé ce réseau en un réseau qui s'appelait Solidarité, et qui avait pour but d'aider tous les militants dans le monde entier qui étaient confrontés à des dictatures. Donc il leur donnait par exemple des sortes de leçons, des cours de clandestinité. Et puis, comme il se rendait souvent en Algérie, il a vu ces pirates de l'air qui étaient un peu désemparés, qui savaient plus trop quoi faire. Et donc, il a décidé de leur tendre la main et il les a fait passer en France. Et donc, ils passent en France, ils vivent en France pendant 2 ans. Alors, eux, ils ne savaient absolument pas qui était Curiel. Ils ne savaient même pas que c'était lui qui les avait fait passer en France. En fait, ils ont découvert sa véritable identité en 1978, quand il a été assassiné. puisqu'il a été assassiné par, on ne sait pas trop si c'est l'extrême droite, les services secrets, les barbouzes ou des truands, mais c'est sans doute un peu les trois, quoi. Et donc, en fait, quand ils arrivent en France, ils sont encore soutenus par des réseaux de soutien, des gens qui ne savent pas exactement qui ils sont. Moi, j'ai interviewé, par exemple, la dame qui avait hébergé Jean et Melvin. Donc, c'était un couple. Ils étaient ingénieurs. Ils avaient un appartement dans des beaux quartiers de Paris. Et ils avaient une chambre de bonne dans laquelle ils hébergeaient Jean et Melvin. Et pendant la journée, quand ils étaient au travail, Jean et Melvin pouvaient venir dans leur appartement. Eh bien, eux, par exemple, ils ne savaient pas qui ils hébergeaient. Ils pensaient que c'était des déserteurs, qui avaient déserté après la guerre au Vietnam. Mais ils ne savaient pas exactement qui c'était. Et donc pendant 2 ans comme ça, de 74 à 76, ils vivent dans la clandestinité. Il y a un des pirates de l'air qui quitte la France, qui passe par le Portugal et qui va jusqu'en Guinée. Donc lui, il sera jamais rattrapé par la police, sauf en 2011 où la CIA le retrouve, mais le gouvernement portugais refuse de l'extrader. Par contre, Jean Melvin, George Brown et Joyce Tillerson, eux, ils sont rattrapés par la patrouille et ils sont arrêtés en 1976.
Voilà, et tu soupçonnes Cleaver de les avoir balancés quand même.
Oui, parce que Cleaver, il a quitté l'Algérie avant eux, il est venu en France, il s'est fait pote avec Giscard d'Estaing, qui à l'époque était ministre des Finances et qui a obtenu grâce à Chirac le statut de réfugié pour Cleaver et sa famille. Et donc il était, c'est quand même quelqu'un qui était assez proche, assez magouilleur, on va dire. Et puis en 75, il a eu une sorte d'illumination. Il a vu Jésus-Christ dans le ciel et il a décidé de redevenir chrétien. Il est retourné aux États-Unis. Il vivait très mal l'exil, donc il avait envie de retourner aux États-Unis. Et sa manière, en fait, de se reconvertir, ça a été de retourner sa veste. Et il a fait toute une série de meetings dans tous les États-Unis, de meetings anticommunistes. Il était soutenu par un millionnaire protestant qui était bien content de le voir porter la bonne parole. Et pas mal de charges qui étaient retenues contre lui ont été abandonnées. Et il a sans doute balancé pas mal. Et moi, j'ai des
il
sources.
Il a même soutenu un président très républicain.
Il a soutenu Reagan. Il a même voulu être candidat pour Reagan à l'investiture pour être gouverneur. Donc ça a échoué. Mais voilà, il est passé en 10 ans d'un discours révolutionnaire anticapitaliste à un discours républicain anticommuniste.
Anticommuniste.
Put it there, boy, and we'll show these fascists what a couple of hillbillies can do. You may be surprised, people in this world are getting organized. You're bound to lose, you fascists bound to lose.
Woo! All you fascists bound to lose.
I said,
all you fascists bound to lose.
Yes,
all you fascists bound to lose.
Chronique syndicale, Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, avec Sylvain Patieux, Panthère et Pirate, aux éditions La Découverte. Donc, nos Américains arrivent en France, hein, 4 d'entre eux, le 5e étant parti ailleurs, et donc, ils sont balancés par Cleaver, probablement, et donc, ils vont être arrêtés, prison, procès, et un comité de soutien tout à fait exceptionnel.
Oui, il y avait Simone Signoret, Michel Foucault, James Baldwin, il y avait beaucoup de stars, puis il y avait aussi des anonymes, hein, parce que faut pas oublier ça. Hein. Ils ont un comité de soutien dès leur arrestation, qui quand même se mobilise, qui fait des tracts, qui leur offre l'occasion d'écrire un livre dans lequel ils témoignent de ce qu'était leur vie aux États-Unis et de pourquoi ils ont détourné cet avion. Un livre qui sort au moment du procès en 78 aux éditions du Seuil, qui sont à l'époque des éditions très engagées. Et donc, ce comité de soutien embauche aussi une équipe d'avocats, qui est une équipe d'avocats militants, avec Jean-Jacques de Félis, qui est, disons, à tête de ce pool d'avocats. Jean-Jacques de Félis, c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière en soutenant, en défendant des militants pendant la guerre d'Algérie. Après, il a défendu des militants au moment de mai 68. C'est quelqu'un qui a jamais été encarté, mais qui veut utiliser le droit comme une arme au service des militants, au service des opprimés. Donc il a une conception assez militante, mais dans un cadre vraiment juridique, dans le cadre du droit. Et donc Jean-Jacques de Félis, il engage des avocats d'un certain âge et des avocats de plus jeunes aussi. Il y a Georges Paul Langevin, qui aura ensuite une carrière assez brillante, et également Irène Terrel,
encore défendu très récemment en tant que militant de la CNT.
Exactement, et qui défend aussi les sans-papiers, Irène Terrel, qui est vraiment très engagée. Et donc tous ces avocats, ils ont une stratégie qui est basée à la fois sur le soutien la mobilisation de l'opinion publique à travers le comité de soutien, et essayer de sensibiliser aussi les jurés à ce que ça veut dire d'être noir aux États-Unis.
Oui, alors ce qui est intéressant dans le procès que tu décris longuement, c'est que ce procès contre quatre pirates de l'air devient le procès du racisme aux États-Unis et du racisme anti-afro-américain en particulier, quoi.
Exactement, avec, d'une certaine manière, la tentation pour la France de se donner bonne conscience. Il y a un peu, les avocats jouent un peu là-dessus aussi, c'est de dire, regardez, nous, on n'est pas comme eux, nous, on n'est pas racistes, quoi. Bon, en fait, quand on regarde le procès, on se rend compte qu'en fait, ils ont été soumis à des formes de racialisation qui n'étaient pas du tout les mêmes que celles qu'il y avait aux États-Unis. Mais quand on regarde les comptes rendus dans la presse, il y a aussi du racisme, une sorte de condescendance, des stéréotypes, mais qui vont jouer en la faveur des accusés. C'est-à-dire que il y a une sorte de paternalisme, on va dire, du côté français, mais qui, dans le cadre du procès, joue plutôt en leur faveur. Et l'enjeu du procès, c'est d'arriver à convaincre les Français moyens, qui sont, comme on l'est tous, quoi, qui sont membres du jury, que l'acte est politique et qu'il ne doit pas être condamné trop sévèrement. Et donc, il y a toute une série de témoignages avec notamment des personnalités religieuses qui témoignent depuis les États-Unis, qui écrivent des lettres ou qui viennent témoigner au procès pour dire que le racisme aux États-Unis est terrible. Il y a aussi des témoignages de passagers qui témoignent quand même que le détournement d'avion s'est passé de manière assez pacifique. Alors ils avaient quand même des armes, il y en a certains qui ont été un peu traumatisés par ça, mais quand même ils n'ont pas été très violents avec les passagers. Il y a même des discussions un peu surréalistes, par exemple entre Jean et une hôtesse de l'air pendant le détournement, où elle parle de couple et de féminisme, d'accouchement sans douleur, de méthodes éducatives positives pour les enfants. Enfin voilà, il y a aussi ce côté-là des années 70. Et donc le procès débouche sur une sentence qui est relativement, indulgente. Enfin, ils sont quand même condamnés à 5 ans de prison, avec du sursis pour les femmes.
Ouais, puis ils ont fait de la préventive, donc ça va.
Ils sortent, en fait, les hommes sortent, les femmes sortent dès la fin du procès. Les hommes, ils restent encore quelques mois en prison et ils sortent au début des années 80. Mais surtout, les jurés font le vœu qu'ils ne soient pas extradés vers les États-Unis.
Parce que les États-Unis n'ont pas renoncé à leur droit de poursuite.
C'est ça, comme c'est des pirates de l'air, en fonction des juridictions internationales, ils peuvent être jugés en France, mais les États-Unis les réclament. Et ils réclament notamment surtout George Brown, parce que c'est quelqu'un qui a été évadé de prison. Ils disent qu'il faut qu'il revienne aux États-Unis pour terminer le reliquat de sa peine. Mais l'enjeu, c'est qu'ils seraient revenus aux États-Unis, ils auraient été sans doute condamnés à des très très lourdes peines, ils seraient peut-être même encore aujourd'hui en prison. Donc la France refuse de les extrader. Et là, il y a vraiment un combat qui est mené sur l'opinion publique, et un combat qui est mené aussi par les jurés qui font un vœu et qui est transmis par le juge au ministère de l'Intérieur. Et là, on voit bien qu'on est dans une autre époque. C'est-à-dire que il y a des courriers du ministère de la Justice où ils disent « Attention à l'opinion publique, ils n'admettraient pas qu'on extrade les pirates de l'air. » Et donc, on a une époque où le gouvernement, l'État, met en scène son humanité au lieu de mettre en scène sa fermeté, comme c'est le cas aujourd'hui, où dès qu'il y a des personnes qui... On a vu, c'était le cas avec les militants italiens, par exemple, des années 70, où... le gouvernement français aujourd'hui met en scène sa fermeté en disant on va les extrader vers l'Italie, ils vont aller en prison en Italie. Et on est vraiment là dans une autre époque où c'est plutôt la mise en scène de l'humanité qui est mise en avant.
Mmh. bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. Saw my reflection in the window, didn't know my own face. Oh, brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Avenue till my legs felt like stone. Voices of friends vanished and gone. At night I hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain. The streets of Philadelphia.
Chronique syndicale, Radio Libertaire, avec Sylvain Patieu, autour de Pirate et Panthère, j'allais dire...
Panthère et Pirate, en fait.
Oui, enfin, qu'importe, aux éditions La Découverte. Voilà, donc un ouvrage tout à fait intéressant entre lutte de classe et Black Power de ces Afro-Américains qui se sont retrouvés en France. Alors, ce qui est tout à fait étonnant, ils ne sont pas extradés, et tant mieux, et ils vont s'installer à Caen, et pour le coup, ils vont devenir militants, d'une certaine manière, ce qu'ils n'avaient jamais vraiment été, même s'ils avaient des sympathies affichées pour le Black Panthers et le Black Power. Ils n'avaient jamais milité, pour les raisons que tu évoquais tout à l'heure, alors, le moralisme de ce parti afro-américain, et puis bon, les conditions de vie dans lesquelles ils étaient. Donc ils s'installent en France, ils apprennent le français assez rapidement, et vont devenir des travailleurs sociaux très engagés dans une banlieue très populaire, qui s'appelle La Grâce de Dieu, oui. Pas de chance, à Caen.
Oui, ben en fait, c'est vrai que le titre est un peu trompeur, parce que pirates, ils l'ont été, mais pas très longtemps, juste le temps de cet acte un peu fou qui était de détourner un avion. Panthères, ils l'ont pas vraiment été, ils étaient sympathisants des Black Panthers, mais ils ont jamais vraiment pu militer. Par contre, travailleurs sociaux à Caen, ça, ils l'ont été pendant de très longues années, et finalement, Caen est l'endroit où ils ont passé le plus de temps dans leur vie. Et alors, ce qui leur permet de se reconvertir vers le travail social, et de passer, c'est vrai que ça peut paraître pas très sexy, de passer du Black Panther Party à Mieux Vivre à la Grâce de Dieu, qui est l'association dans laquelle ils ont milité.
Sachant qu'ils sont toujours restés très chrétiens, quoi.
Oui, ils sont restés chrétiens, ouais. Bien sûr, ils étaient protestants. Mais disons que ça témoigne quand même d'une continuité dans le combat pour la justice sociale qu'ils ont mené, et d'un travail qui devient beaucoup plus local, beaucoup plus concret. Et ce qui a permis de se reconvertir dans ce travail social, pour Melvin, c'est d'abord le sport. Puisque en tant que noir américain dans les années 80, eh bien, il a des portes qui s'ouvrent pour devenir d'abord joueur de basketball, puis éducateur sportif. Parce que voilà, simplement, il y a des stéréotypes sur les noirs américains et le sport dans les années 80, et principalement sur le basketball qui est vraiment...
Et puis le baseball aussi.
Et le baseball aussi, ouais. Voilà. Mmh. Et donc, grâce à ces métiers d'éducateur sportif, il peut passer des diplômes pour devenir éducateur tout court. Et il prend la direction d'un foyer qui s'installe au milieu des années 80, dans une cité, donc dans le quartier de la Grâce de Dieu à Caen, qui est un quartier qui est vraiment très difficile dans les années 90. Et donc, en fait, il passe du racisme ségrégationniste qu'on connaît aux États-Unis à d'autres formes de racisme qui existent en France et qui se développent dans les années 80 et les années 90, qui sont un racisme plus anti-banlieue, avec la naissance dans ces années-là de ce qu'on appelle le problème des banlieues, la stigmatisation des jeunes des banlieues, hein, qu'on se rappelle des termes de sauvageons par exemple, qui servent à les désigner dans les années 90. Et eux, ils prennent le contre-pied de ça, c'est-à-dire qu'eux, ils disent on veut pas que ces jeunes soient stigmatisés, on veut aller vers eux, on veut leur proposer des choses au niveau de la culture, au niveau du sport. Jean, elle crée une association d'aide aux devoirs, par exemple, et ils font du lien entre les personnes blanches plus âgées de leur quartier et les personnes d'origine immigrée plus jeunes qu'il y a aussi dans leur quartier. Et en fait, l'idée, c'est de refuser cette stigmatisation et d'appliquer les recettes qu'ils avaient connues, eux, quand ils étaient jeunes, dans les quartiers noirs où ils vivaient, où il y avait un encadrement de la jeunesse et un souci de la jeunesse par l'ensemble de la communauté. Et bien, ils essayent d'appliquer ça dans leur quartier et ils deviennent des personnalités vraiment importantes de leur quartier. Ils participent à améliorer les conditions de vie. Alors, c'est sûr que c'est pas très spectaculaire, c'est pas très révolutionnaire, mais quand même, ils ont vraiment joué ce rôle-là dans leur quartier. Alors, ils ont pu aussi être un peu instrumentalisés. On voit bien, par exemple, que c'est au moment où il y a la politique des grands frères, c'est-à-dire où l'État se dit... si on veut pacifier les banlieues, si on veut canaliser les jeunes, il faut des gens qui sont comme eux, sous-entendu comme eux, c'est qui ont la même provenance géographique, mais aussi la même apparence physique. Et donc voilà, des personnes racisées, quoi. Et donc eux, c'est pas vraiment des grands frères, mais c'est des grands-pères ou des grands-mères, quoi, ou des grands-oncles et des grands-tantes. Et ils sont utilisés aussi pour ça. Ils sont aussi utilisés dans cette optique-là. Mais il n'empêche qu'ils deviennent des personnalités importantes et des personnes qui sont capables de tenir, par exemple, dans leur quartier aussi un discours contre la vidéosurveillance, contre la répression, en disant, voilà, les jeunes des quartiers, il faut arrêter de les mépriser et il faut essayer d'aller vers eux, quoi. Donc ça, c'est important, et aujourd'hui, il y a même un stade qui porte leur nom.
Oui, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a une vraie reconnaissance sociale de Jean et Melvin, puisque à Caen, dans ce quartier-là, il y a un stade qui porte le nom de John et...
Enfin, de Jean et Melvin, oui, parce que... Bah, alors, Melvin, lui, s'est passé pas mal par le baseball, puisque sa grande passion, c'était le baseball, donc il a créé un club de baseball. Et voilà, ils ont gardé ce rôle de porte-parole aussi de leur quartier, quoi. Et ils sont toujours restés américains, ils n'ont jamais voulu prendre la nationalité française. Et donc, ce qui est intéressant, c'est quand même, c'est qu'ils sont restés noirs américains jusqu'au bout. Ils se considèrent encore comme tels, mais en même temps, ils sont français. Ils ont vécu en France la plus grande partie de leur vie, et ils ont agi en France, et la plus grande partie de leur militantisme, finalement, elle a été en France.
Oui, c'est-à-dire que Jean est morte, et Melvin est toujours vivant, lui.
Oui, Melvin est toujours vivant, toujours actif, et il a la pêche, quoi. Et voilà, donc il continue à agir autant qu'il peut, quoi.
Voilà, sachant qu'il y a quand même un drame autour de ces gens-là, juste pour l'évoquer, c'est qu'ils ont deux enfants, que tu disais qu'ils
étaient... Trois enfants, ouais. Il y en a un qui est né en France, après.
Voilà. Donc il y en a un qui repart aux États-Unis et qui va se faire buter dans un ghetto, comme pas mal de jeunes noirs.
Voilà, dans une guerre de gang. Donc en fait, leur fils aîné a été rattrapé par ce destin de jeunes noirs aux États-Unis, et par cette violence qu'il y a, c'est-à-dire qu'il y a des questions raciales, il y a des formes de racialisation en France comme aux États-Unis. Elles ne prennent pas les mêmes formes, et c'est vrai que quand on est noir américain en France, c'est peut-être plus facile que quand on est noir issu d'Afrique subsaharienne ou des DOM. Ça, ils en sont pleinement conscients. Mais par contre, ce qu'il y a de très différent et de différent entre les États-Unis et la France, c'est le degré de violence. Il y a une violence beaucoup plus forte, avec notamment la circulation d'armes, etc. Et donc, voilà, leur fils aîné a été rattrapé par cette violence et il en est mort.
Voilà. On va s'arrêter sur cette note un peu triste. Donc, on ne peut que vous conseiller, alors, de lire cet ouvrage, à la fois pour voir la vie de ces Afro-Américains exilés et détourneurs d'avions, mais aussi pour comprendre un peu ce qu'a été le Black Power, qui pouvait paraître une espèce d'esprit révolutionnaire romantique, quand en fait c'est quand même une organisation très machiste, viriliste, maoïsante, parce qu'ils sont pas très très pointus, ouais, question idéologique.
Il y a des contradictions, disons, dans ce Black Panther Party, c'est-à-dire à la fois une ouverture à certaines thématiques, ça a été des premiers à s'intéresser aux questions du sexisme ou de l'homophobie, puis ils ont proposé aussi des véritables actions qui étaient intéressantes, à la fois d'autodéfense face à la police et de petits déjeuners servis dans les ghettos, par exemple, mais en même temps il y avait ce côté en effet très viriliste, très machiste, et surtout des conflits internes très violents qui ont débouché sur le fait que c'était une organisation éphémère qui dès 72-73 commence à décliner. Et voilà, avec des leaders qui sont pas toujours très sympathiques. Et moi, je conseille de lire les mémoires d'Hélène Brown, qui sont parues aux éditions Sileps. Hélène Brown, ça a été une des dirigeantes du Black Panther Party.
Une des rares femmes à avoir la direction, ouais.
Une des rares femmes, ouais, en effet, à avoir atteint ce niveau de responsabilité dans le Black Panther Party. Et son livre est vraiment très éclairant sur à la fois les luttes qu'elle menait en tant que femme noire et les difficultés qu'elle rencontrait en tant que femme dans ce parti.
Merci à toi, Sylvain, puis à bientôt.
Merci beaucoup.
Join the marching jobless corps. No work in the factories, no more manufacturing. All the tools are broken, rusted, every wheel and window busted. Through the city streets we go, idle as a CEO, idle as a CEO. Well, one, two, three, four, join the marching jobless corps. We don't have to pay no rent, sleeping in a camping tent. Dumpster diving, don't take money. Every bite we share with 20. Let the yuppies have their wine. Bread and water suit us fine. Bread and water suit us fine. Well, one, two, three, four, join the marching jobless corps. Worked and paid our union dues. What did years of that produce? Houses, cars, and other shit for the rich's benefit. What do workers get for pay? Hungry, broke, and thrown away. Hungry, broke, and thrown away.
Let me bring it all up, Yiddish. We're talking about the problem.
Schim lang hin, fabrik dem Hammerklang. Es liegen Kehlen, kaum vergessen zu nehmen. Der Jabber sei schon fressen. Gehen wir rum in Gas. Wiedig wir im Pust und Pass. Wiedig wir im Pust und Pass. Und eins, zwei, drei, vier Arbeitslose sind in hier. Juren lang, die Arbeit schwer und geschafft als mehr und mehr. Hat der Schlösser